Morning Edition from NPR News.
Das ist die Sandbinderhausen.
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous allons prendre des nouvelles de ce satané variant nouveau Omicron qui est en train d'isoler l'Afrique australe du reste du monde, qui inquiète le G7, qui fait réagir l'ONU. Pour paniquer la planète, il ne fallait pas s'y prendre autrement. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est à cause de nous, pays occidentaux, pays riches, que les variants apparaissent? C'est au professeur Cyril Cohen que nous poserons la question dans un instant, depuis la vigie qui est Israël. Le bruit du monde, c'est un avant-goût de l'émission spéciale Joséphine Baker qui aura lieu demain à la même heure. Loïc Leroy aujourd'hui va vous raconter un fameux épisode dans un club de Miami alors que Joséphine Baker retournait chanter dans son pays. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Marion Lourd a trouvé les Simpsons à Hong Kong. Un président de la République tchèque enfermé à double tour et des cochons sur un terrain de golf en Angleterre. 18h55, c'est Jean-Marc Four et le monde d'après. À l'image des élections au Honduras, l'Amérique centrale semble coincée entre populisme de gauche et de droite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Cyril Cohen.
Bonsoir Fabienne.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes immunologue, professeur à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Vous êtes membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19. Nous rejoindrons Romain Chanson dans un tout petit instant. Il est en direct avec nous. Il sera en direct depuis Johannesburg. Cyril Cohen, est-ce que, on a entendu le G7 à l'instant, est-ce que ce variant Omicron est en train de nous dire, si nous ne vaccinons pas la planète entière, on ne s'en sortira jamais?
Dans un sens, oui. Bonsoir. Je crois, parce que si on réalise que les variants se répandent beaucoup plus rapidement, on se crée beaucoup plus rapidement dans des populations qui ne sont pas vaccinées, et que l'on laisse justement une partie du monde qui n'est pas vaccinée, ben on doit s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de variants. Et je crois qu'il faut comprendre que c'est un combat qui est global aujourd'hui. C'est pas chaque pays pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment donner accès à qui le peut, qui le veut, à ces vaccins. C'est mon avis d'expert.
Et pour autant, on voit ce qui se passe chez vous en Israël, mais il se passe la même chose avec les frontières européennes. Et pas seulement, chacun est en train de se replier sur lui. On a vraiment ce sentiment que ce sont les pays riches qui sont en train de se refermer sur eux-mêmes.
Écoutez, je ne sais pas si c'est essentiellement les pays riches, parce que j'ai entendu aussi, une fois de plus, d'autres pays, même des pays d'Afrique, qui ont bloqué, du moins, on ne va pas dire pays riches, mais pays occidentaux, on va dire le Maroc, d'après ce que j'ai bien compris.
Aussi, c'est vrai, vous avez raison.
Voilà. Donc, je crois que c'est une question de préservation, et je ne m'attendrai pas... je ne serais pas surpris, excusez-moi, si, par exemple, l'Amérique du Sud aussi déclare un tel état d'urgence, entre guillemets. Donc, je crois qu'une fois de plus, ce que nous avons appris, c'est que dans un sens... Il faut agir vite. Vous savez, Israël, lors de la première vague, ça remonte il y a deux ans à peu près, on avait déjà commencé à fermer nos frontières, ce qui nous avait permis à l'époque d'éviter une première vague catastrophique. En Israël, malheureusement, sont morts 300 morts, mais c'est comparé à d'autres pays dans le monde, ce n'était pas énorme. Donc c'est pour ça que nous avons appris que fermer, on a un avantage comparé à d'autres pays, c'est qu'on a pratiquement un seul port d'entrée qui est l'aéroport à côté de Tel Aviv. Donc dès le moment où on ferme l'aéroport au tourisme, on peut, je dirais, mieux contrôler. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout empêcher.
Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix, en fait. Vous diriez que nous n'avons aucun autre choix, même si l'Afrique australe, effectivement, se retrouve coupée du monde aujourd'hui. En l'état, il n'y a pas d'autre solution.
Je crois que la chose qu'on est en train de faire, nous, c'est quand même... Enfin, pas que nous, je crois que c'est le monde entier. On est en train d'essayer de déterminer si on parle vraiment d'une menace. Je crois que, il ne faut pas parler de panique, mais plus d'inquiétude, entre guillemets. Donc c'est pour ça, essayer de comprendre si ce variant, justement, se répand beaucoup plus. C'est les premières données que nous, on a, d'après les analyses qu'on fait sur les données qui nous arrivent d'Afrique du Sud, etc. Mais ça, encore, il faudra le vérifier. Déterminer surtout s'il est résistant au vaccin. Et donc là, ça dicterait une politique sanitaire qui est un peu différente de ce que l'on fait jusqu'à aujourd'hui.
Vous l'avez cette crainte, Cyril Cohen, ou pas? Est-ce que c'est possible qu'un variant soit totalement perméable au vaccin?
Totalement, je ne pense pas, une fois de plus, mais lorsqu'on, vous savez, on a été assez surpris lorsqu'on analyse ce variant, on voit un variant qui est très très différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui et qui surtout a beaucoup de mutations. Donc plus il y a de changements comparés à la souche originelle dont le vaccin, en fait, est sur laquelle le vaccin est basé, donc plus il y a de changements par rapport à cette souche originelle, plus on s'éloigne, entre guillemets, d'une, ou on se rapproche d'une possibilité où le vaccin est moins efficace et donc ce qui nous reste à déterminer, c'est le taux d'efficacité. Alors, il est très possible que ce soit 50%, soit 70%, 90%. Je ne pense pas que ça sera 0%.
Vous êtes très loin dans votre troisième dose, par exemple, en Israël. Et mm-hmm. aujourd'hui, le discours qu'on tient dans la plupart des pays occidentaux, c'est dépêchez-vous de booster, en fait. Ça reste la bonne solution ? Dépêchez-vous d'aller vers la troisième dose ?
Ben, y a aussi une autre chose, je crois, que les gens oublient. C'est que le variant aujourd'hui qui nous inquiète, c'est le variant Delta. Mm-hmm. Et je crois qu'il est majoritaire en France et dans la majorité des pays qui ont fermé leurs frontières, etc. etc. Même en Israël, hein, je veux dire, même si on a aux alentours de 600 cas par jour, ce qui n'est pas, par exemple, ce qu'on avait au mois de septembre avec 12 000 cas, qu'on avait parlé, je crois, la dernière fois. Mais en fait, avec 600 cas par jour, c'est toujours le Delta, essentiellement. Mmh. Donc, et le vaccin est efficace contre le variant. Donc, c'est pour ça, je pense, que la question du booster ne se pose pas aujourd'hui.
Un variant après l'autre, si je puis dire. Avant de faire un petit aller-retour en Afrique du Sud, moi, j'ai sous les yeux une carte du monde, Cyril Cohen, et qui est très étonnante, parce qu'on regarde le taux de vaccination dans chacun des pays, on se rend compte que effectivement l'Amérique du Nord et même l'Amérique du Sud commencent à être très bien vaccinés, y compris la Russie avec son propre vaccin, la Chine, l'Europe, et puis effectivement l'Afrique est un trou. Mais là où c'est très étonnant, c'est que l'Afrique du Sud est mal vaccinée, 23,8%, mais mieux vaccinée quand même que la plupart des pays d'Afrique au-dessus d'elle. Donc comment se fait-il ? Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce qu'on sait comprendre pourquoi c'est d'un pays comme l'Afrique du Sud et pas la, vous voyez, devant les yeux, j'ai Tchad, 0,4%, Burundi, 0%. Donc, comment se fait-il que ce soit d'un pays comme l'Afrique du Sud, mal vacciné, mais qui est quand même vacciné à 23%, que sorte un variant de ce type ?
Ben, je vais vous donner une de nos théories, entre guillemets. Je crois qu'une des choses aussi qu'il faut voir, c'est le nombre de personnes qui sont immunodéprimées. Et de plus, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de sida dans les... dans les pays d'Afrique, malheureusement. La deuxième chose aussi, il y a aussi la question de la densité de la population. Je crois que ça joue aussi. Vous savez, quand vous habitez dans un pays où vous n'avez pas de contact avec, je dirais, votre entourage, c'est très dur de transmettre un virus. Donc tout ça, ce sont des choses qui jouent. Et une autre chose, c'est aussi la détection et savoir quels sont les gens malades, l'accès au vaccin. Je veux dire, c'est beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais une fois de plus, moi, je considère l'Afrique du Sud quand même comme un pays qui est assez, dans certaines régions, qui est assez dense, beaucoup plus dense que d'autres pays. Donc ça pourrait expliquer ça. Et je répète, les gens qui sont immunodéprimés pourraient être un terrain au développement des variants.
Et ça, effectivement, c'est intéressant parce que vous le disiez, il y a des cas spécifiques en Afrique du Sud, notamment liés d'ailleurs au sida, qui a un mal considérable à baisser dans toute l'Afrique australe. Bonsoir Romain Chanson.
Bonsoir Fabien.
Ah, formidable. Il y a un décalage entre vous et moi, Romain, mais vous êtes là et c'est tant mieux. C'est vrai que l'Afrique australe, je le disais à l'instant, est coupée du monde. Je voudrais d'abord savoir comment on le vit chez vous quand chaque jour un pays supplémentaire dit non, pas vous.
Alors c'est extrêmement mal vécu par les Sud-Africains et par le premier d'entre eux, le président Cyril Ramaphosa, qui a déjà dit à plusieurs reprises sa profonde déception. Il parle, lui, de restrictions injustes et discriminatoires. Une autre voix dans la sous-région, le président du Malawi, qui préside aussi à la communauté de développement d'Afrique australe, il parle d'afrophobie, la phobie de l'Afrique. Mais ce narratif, il prend un peu du plomb dans l'aile, puisque il y a des restrictions maintenant imposées par des pays africains. Vous en avez parlé avec votre intervenant. Rwanda, Seychelles, Maurice, Angola, Maroc se ferment également à l'Afrique du Sud et ça a valu un coup de colère du porte-parole de la diplomatie sud-africaine aujourd'hui, qui est sorti de son langage policé de diplomate pour dénoncer ces comportements de pays frères.
Je disais tout à l'heure que vous aviez un taux de vaccination qui tourne autour de 23,8%. Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là ? Et est-ce qu'on parle surtout de gens doubles vacciné, c'est-à-dire réellement a priori immunisé ?
Alors moi, je garde le chiffre plutôt de la population adulte, puisque c'était notamment l'objectif du gouvernement. C'est un tiers de la population adulte qui est complètement vaccinée. C'est à comparer avec l'objectif fixé par le président Ramaphosa de deux tiers de la population adulte vaccinée qui devait l'être d'ici la fin de l'année. Mais c'est impossible à tenir, vous pensez bien. C'est donc un échec pour le gouvernement qui n'a eu de cesse de répéter qu'il faut se faire vacciner, que c'est la seule solution. 20 000 vies pourraient être sauvées si ces deux tiers de la population adulte étaient effectivement vaccinés, selon les scientifiques. Il y a bien des mesures qui ont été mises en place pour encourager la population d'Afrique du Sud à se faire vacciner. Il y a déjà la plus importante, peut-être la gratuité. Le vaccin est gratuit. Ensuite, on a vu des événements comme un week-end spécial vaccination au mois d'octobre. Et puis en novembre, c'était les élections municipales et on pouvait aller à la fois voter et puis recevoir son vaccin dans son bureau de vote. Ça ne suffit pas, vous voyez, la jauge des vaccinés, elle se remplit, mais elle se remplit trop doucement. Et puis l'une des conséquences, vous l'avez évoqué avec votre intervenant, c'est cette quatrième vague épidémique qui pointe le bout de son nez en Afrique du Sud. Et puis c'est surtout l'émergence et la propagation des variants, vous voyez je parle, Omicron. Alors, on ne sait pas d'où il est originaire, il faut rester prudent. Il a seulement été identifié en Afrique du Sud, mais on sait qu'une population non vaccinée, c'est une population non protégée, qui n'est pas en mesure de combattre la mutation de ces virus.
Et Romain, en termes d'acceptabilité, où est-ce que vous en êtes ? Vous nous parliez effectivement à l'instant de ces week-ends vaccination. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça avance au rythme où le gouvernement sud-africain voudrait que ça avance ?
Alors c'est compliqué, mais on n'a pas de résistance, de forme de résistance comme on peut avoir dans des pays européens. Il n'y a pas ce mouvement anti-vax comme on peut voir en Europe, pas de manifestations massives. C'est plutôt un scepticisme partagé, répandu chez certains individus. Il y a les fameuses théories du complot, il y a ceux qui vont réfléchir aux scandales sanitaires du passé, d'autres qui font seulement confiance aux remèdes traditionnels. Alors on observe que c'est chez les jeunes que ça coince. Seulement 6% des 12-17 ans sont vaccinés aujourd'hui. C'est pourtant une population qui est plus à même de se mélanger, de sortir. Et on approche ici de l'été austral en Afrique du Sud. C'est la fin de l'école, c'est les vacances. Et c'est donc une source d'inquiétude pour les autorités. C'est pourquoi hier soir, le président Ramaphosa, il a ouvert sa boîte à outils. Il a sorti peut-être le plus fort d'entre eux. Il a annoncé que la vaccination obligatoire, elle est en cours de discussion maintenant en Afrique du Sud. Il faudrait par exemple être vacciné pour accéder à certains sites, à participer à des événements, des stades de foot, des matchs. Alors Cyril Ramaphosa, il ne veut brusquer personne, il ne veut pas ce mouvement anti-vax, il ne veut pas des gens dans la rue, donc il va parler à tout le monde, il va demander à la société civile, aux entreprises, aux syndicats de s'asseoir autour de la table, puisqu'il sait que c'est une question difficile et complexe, et c'est ce qu'il a dit. Un dernier mot, peut-être Fabienne, pour parler de l'efficacité vaccinale en Afrique du Sud, avec une statistique qui illustre l'enjeu de la vaccination. 80% des gens admis à l'hôpital dans la municipalité de Pretoria, la capitale, 80% des gens ne sont pas vaccinés, pardon. Voilà, c'est ça illustre tout l'enjeu pour l'Afrique du Sud.
Merci beaucoup Romain Chanson, merci vraiment Cyril Cohen. En écoutant Romain, et au fond, y compris avec les autres exemples que nous avons, et que vous avez eu vous aussi d'ailleurs à l'intérieur de votre propre pays Israël, on se dit que peut-être ce que nous ratons collectivement, c'est vraiment l'idée de l'acceptabilité, en fait, et c'est ce qui rend les choses peut-être lentes parfois. On dit il faut vacciner à outrance, il faut emmener le vaccin dans tous ces pays-là et partout dans le monde. Est-ce que l'étage qu'on rate, finalement, ça n'est pas celui-là, en manquant de pédagogie, en arrivant vaccin en bandoulière, en disant « allez-y, c'est exactement ce qu'il vous faut ».
Oui, non, je suis entièrement d'accord, surtout que bon, en Afrique, une fois de plus, hein, il y a une histoire par rapport au vaccin et le doute par rapport au vaccin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, on l'a vu avec d'autres vaccins, et il est évident, le virus n'est rien en lui-même, le virus est dépendant de nous, c'est un parasite, et donc c'est à nous, justement, de prendre les mesures qui sont nécessaires, et la mesure dont, que vous évoquez, la pédagogie, l'information, l'explication, comprendre comment chaque communauté fonctionne, ça c'est très très important, on l'a vécu en Israël, parce qu'on a des communautés assez hétérogènes, et il fallait trouver un dialogue pour chaque communauté, adresser les inquiétudes, expliquer de la manière la plus simple, et je crois que c'est ça qui nous a aussi aidé à arriver à un taux de vaccination assez fort.
Chez vous, Cyril Cohen, vous avez fait une espèce de test avec un faux variant oméga, avec des scénarios qui vont avec, voilà, détecter vite, diffusion moyenne ou scénario catastrophe. Là, vous diriez qu'on est où ? Est-ce qu'on est déjà dans la phase 1, c'est-à-dire détecter vite concernant l'Omicron, ou pas encore, ou même pas encore ?
Non, oui, donc c'est exact. Il y a à peu près 2-3 semaines, on a fait justement l'exercice de préparation qu'on a appelé variant oméga. Et donc, je ne pense pas, c'est pas la catastrophe que nous, on envisageait. Pour nous, c'était aussi les hôpitaux qui débordaient, un variant qui touche aussi les plus jeunes et qui crée... Donc non, c'est pas ça, mais c'est un variant qui continue quand même à nous inquiéter. Donc j'espère que d'ici 2 semaines, on aura plus d'éléments de réponse et on sera beaucoup moins inquiet. Mais d'un autre côté, Israël ne relâche pas sa garde, n'a pas attendu. Et je pense que, de manière générale, beaucoup de pays suivent ce que l'on est en train de faire, en attendant d'avoir ces éléments de réponse. Mais c'est un marathon que nous sommes en train de courir, je parle au niveau mondial, et ça va nous prendre beaucoup de temps afin de rendre ce virus endémique.
Et c'est fou parce que vous parlez de marathon, on a parlé de course contre la montre tout à l'heure, c'était hier, je crois, c'était les mots d'Ursula von der Leyen. On est vraiment dans ce type de vocabulaire. Vous avez entendu comme moi que la Chine allait envoyer, potentiellement, avait promis d'envoyer 1 milliard de vaccins pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité de ce vaccin chinois désormais? Ces vaccins dont on parle beaucoup sans vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, ils sont efficaces ou est-ce qu'on est incapable de le dire, nous, pour l'instant?
On a des éléments en ce qui concerne ces vaccins. C'est en gros ce que c'est. Ce sont des vaccins plus, je dirais, traditionnels, qui sont des vaccins inactivés, c'est-à-dire qu'on fait pousser, on prend une soupe de virus et puis on la neutralise, donc on tue le virus et puis on injecte ça. C'est comme ça que beaucoup de vaccins avaient été développés. Et donc ces vaccins donnent une efficacité. On a eu des études aussi qui ont été faites, par exemple au Chili et d'autres pays qui ont utilisé ces vaccins, qui ont montré quand même, je dirais, une efficacité en ce qui concerne les formes graves de 60, 70, 80. 20%, ça dépend des études que vous voyez, ce qui est déjà très bien. Mais d'un autre côté, en ce qui concerne les formes symptomatiques et l'efficacité de base, c'était plus aux alentours de 50%. Donc c'est moins efficace, mais c'est toujours mieux que rien.
Merci beaucoup Cyril Cohen. Merci vraiment, immunologue, professeur à l'Université Bar-Ilan de Tel Aviv, membre du Conseil consultatif des essais cliniques des vaccins contre le Covid-19. Merci aussi à Romain Chanson qui est passé par chez nous ce soir. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est celui du scandale que fit Joséphine Baker dans un club de Miami alors que l'Amérique était toujours ségrégée. C'est un petit morceau de l'histoire américaine, de la plus française des Noirs américaines. Un avant-goût aussi des cérémonies d'entrée au Panthéon que nous vous raconterons et commenterons demain. À suivre aussi, avant 19h, sous les radars, Marion Lourd.
Les Simpsons arrivent à Hong Kong. L'intégralité de la série est disponible via la plateforme de vidéo Disney+. L'intégralité, sauf un épisode qui parlait justement de la Chine. On vous racontera.
L'Amérique de Biden est avalée par Joséphine Baker ce soir. Et le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Honduras voté hier, alternance annoncée dans ce petit pays d'Amérique centrale, mais une alternance qui cache mal la dérive autoritaire et populiste qui frappe toute la région.
Merci beaucoup tout le monde et à tout de suite. Le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni avec Michael Kiwanuka, Beautiful Life. C'est sur France Inter.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and you go falling through my arms like whispers through my heart strings. On and on it goes. You give me life, beautiful
Et le bruit du monde ce soir est à Miami pour un hommage tout spécial à Joséphine Baker avant son entrée demain au Panthéon. Joséphine Baker aux États-Unis, il en reste peu de traces, elle est partie si vite en France et certains de ses retours ont été douloureux, parfois des rendez-vous manqués. Mais il y a un épisode à Miami qui est entré dans l'histoire, c'est en 1951, une époque où la ségrégation raciale existait bien sûr aux États-Unis, mais Joséphine Baker n'entend pas se plier à cette règle. Hier, à l'initiative du consulat de France, un sextet a joué des chansons de Joséphine Baker et l'histoire, c'est Loïc Leury qui la raconte. Can we start it
again, please? Une vaste salle de répétition du nord de Miami, des guitares au mur et un sextet sur scène, piano, basse, trompette, violon, batterie.
Oh oui.
Et Bianca Rosario engagée pour chanter Joséphine Baker.
J'ai regardé des tonnes de vidéos, étudié son style, la façon dont elle bouge sur scène. Elle n'était pas qu'un joli visage, une belle voix et une danseuse. Elle voulait faire la différence, changer la vie des gens. Elle a ouvert toutes les portes pour les femmes afro-américaines comme moi. Elle était capable de tout.
Retour en arrière, en janvier 1951, Joséphine Baker électrise la foule du Copa City Club de Miami Beach. Les choses pourtant étaient mal parties. L'artiste avait d'abord refusé d'y chanter, la loi interdisant aux Noirs l'entrée de la salle. Le gérant insiste, se déplace même à Cuba où Joséphine Baker se produit. Elle lui tient tête au risque de perdre un énorme cachet et finit par obtenir gain de cause. Paul Thomas, le maître de cérémonie lors de la soirée d'hommage hier à Miami.
Les femmes n'avaient pas voix au chapitre à l'époque, même les artistes. Vous ne preniez pas les décisions, les hommes contrôlaient tout. Ce qu'elle a fait est une chose incroyable, incroyable. Et je crois que toutes les femmes en profitent. C'est tout ce dont on avait besoin. Parfois, il suffit juste de la bonne personne.
Des Noirs, des Blancs, des Latinos dans la salle, une date marquante pour l'égalité raciale et pour Joséphine Baker. C'était, dira-t-elle à son public, ma première vraie représentation dans mon pays natal depuis 26 ans. Laurent Galissot, le consul de France à Miami.
C'est une personne qui a fui effectivement les États-Unis, le cauchemar américain de la violence raciale. Elle a pensé qu'elle était née dans un pays qui n'était pas le pays pour elle, qui n'était pas le pays qui lui permettrait, elle, en tant que femme noire, de vivre. Toute sa vie, elle est traumatisée par ça. Mais toute sa vie aussi, elle veut revenir, veut faire avancer les choses. Elle veut, dans un premier temps, en fait, faire échapper ce qu'elle aime à cette ségrégation. Et je crois que petit à petit, elle se rend compte qu'il faut aussi changer les États-Unis. Donc, elle y retourne comme artiste, mais elle y retourne aussi comme militante.
Le début d'une série de coups d'éclat qui lui porteront préjudice, des contrats perdus et une réputation de communiste à l'époque du McCarthyisme. Mais Joséphine Baker n'abandonnera pas la lutte pour les droits civiques et 12 ans après le Copa City Club, elle sera la seule femme à s'exprimer aux côtés de Martin Luther King lors d'une marche historique à Washington.
I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
Je crois qu'on n'a pas assez vu le symbole derrière sa participation en 63 à la marche de Washington, où elle arrive en uniforme des forces françaises libres, et c'est une image enfin incroyable. Les gens ont l'impression que cette personne s'est trompée de réunion quelque part. Josephine Baker ne s'est pas trompée, son message il est clair, elle s'est engagée dans la résistance et contre le nazisme, et elle considère que le job n'est pas terminé.
Une résistance qu'elle mettra en pratique à New York. Josephine Baker portera plainte contre le prestigieux Club Stork où l'on avait refusé de la servir. À Los Angeles, elle fait arrêter un homme qui ne voulait pas manger dans la même pièce qu'elle. Mais pourquoi alors, malgré cet engagement, est-elle aujourd'hui relativement inconnue aux États-Unis?
Nous vivions au rythme de James Brown, d'Aretha Franklin. Nous avions beaucoup de figures historiques, James Baldwin, Martin Luther King. Ou peut-être est-ce parce que c'était une femme? Je n'en suis pas certain. Mais nous devons absolument la faire connaître chaque fois que c'est possible.
La soirée d'hier était l'une de ces occasions de faire connaître Josephine Baker, femme noire, artiste, résistante, militante et franco-américaine. David Atlan, directeur musical du sextet qui se produisait à Miami.
J'ai deux amours, c'est ça, mon pays et Paris. Je veux dire, c'est ce qu'elle explique. C'est-à-dire que quand elle est revenue ici, elle a dit « je comprends pas, ici j'arrive pas à prendre un verre dans un bar, on me met dehors, alors qu'à Paris, je mange dans les plus beaux restaurants, je dors dans les plus beaux hôtels. » Et je pense que c'était une grande blessure pour elle, parce que les États-Unis, c'était quand même son pays.
Un pays qu'elle aura contribué à faire évoluer depuis la scène et en dehors.
C'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays.
Merci beaucoup Loïc Loury, Joséphine. On aura largement le temps d'en parler demain, puisqu'au moment où on se parle, nous serons au milieu du parcours de son cénotaphe de la rue Soufflot jusqu'au Panthéon. On reparlera de cet épisode, d'autres aussi, évidemment. Tout cela, c'est donc demain. Voici qu'en attendant, l'actualité internationale passée sous les radars a été repérée par Marion Lourd. J'adore, on adore ce générique qu'on reconnaît entre mille, celui des Simpsons, série télévisée américaine pour adultes, série satirique aussi, qui débarque à Hong Kong.
Avec l'ensemble des titres de la plateforme américaine, Disney+, l'ensemble des titres, sauf un épisode du feuilleton qui met en scène Homer, Marge et leurs deux enfants, l'épisode 2 de la saison 16 précisément, il date de 2005. Et il raconte le périple des Simpsons en Chine avec la tante Selma qui souhaite adopter un enfant. On y voit entre autres un panneau posé sur la place Tiananmen et qui clame « Ici, en 1989, rien ne s'est passé ». C'est pourtant l'année de la répression des manifestations. Le père de famille Homer visite aussi le mausolée de l'ex-dirigeant Mao Tse-tung alors que sa fille Lisa a une discussion houleuse avec une fonctionnaire chinoise.
Ah, regardez-le dormir. Il ressemble à un petit ange qui a tué 50 millions de gens.
Lisa, bientôt tu vas avoir une petite sœur chinoise qui va te surpasser intellectuellement.
Ça, je n'en suis pas si sûre. On me trouve assez intelligente.
Eh bien, on trouvait le Tibet assez indépendant. Tu as vu le résultat?
Oh, comment osez-vous parler aussi légèrement de cette horrible...
Ne sois pas polie, Lisa.
Quelle affectueuse discipline.
On voit le potentiel polémique de cet épisode à Hong Kong tenu d'une main de plus en plus ferme par le régime chinois. Mais, en l'occurrence, difficile de savoir si Pékin a réellement joué un rôle dans la censure de cet épisode ou si Disney a pris les devants puisque l'entreprise américaine refuse de commenter. D'autres contenus qui moquent la Chine sont encore disponibles sur des plateformes à Hong Kong, parmi lesquelles un épisode de South Park.
Au revoir les Simpsons.
Tu reviendras un jour, Ling, en adolescente américaine totalement pourrie. Homer.
Un président sous cloche, ou presque, ça se passe en République tchèque, Marion, le week-end dernier.
Miloš Zeman souffre en effet de la Covid-19. Il a quitté l'hôpital samedi. Conséquence, hier, le chef de l'État a intronisé le nouveau Premier ministre depuis une cabine de plexiglas installée dans sa résidence de Prague. Drôle d'exercice, sans doute, pour le chef du gouvernement de centre-droit, Pietr Fiala. Il prononçait dans ce contexte son premier discours. Je peux vous promettre que je ferai tout pour que ce gouvernement soit celui du changement pour le futur, assure le nouveau Premier ministre. Un gouvernement qui fera traverser au pays la situation actuelle si difficile, résoudra les problèmes brûlants qui nous affecte en ce moment, mais fera aussi les changements nécessaires pour que nos citoyens et leurs enfants aient un futur. Reste à former hein, ce gouvernement. Mm-hmm. Le président Zeman doit rencontrer les potentiels ministres d'ici 2 semaines. Mais il faut pour cela que sa santé se maintienne.
Et puis Marion, on connaissait l'expression comme un chien dans un jeu de ski. Un autre pourrait voir le jour au Yorkshire en Angleterre.
Comme un cochon sur un terrain de golf. Mm-hmm. Un cochon ou plutôt 2 cochons. Hein.
Voilà, c'est eux.
C'est eux. D'accord. 2 bêtes noires et de taille imposante ont fait irruption sur le green du Lightcliff Golf Club il y a 8 jours et provoqué le chaos. Ils ont renversé les sacs, abîmé la pelouse et surtout légèrement blessé aux jambes un joueur et un salarié, poussant le club à fermer pour des raisons de sécurité. Le mystère plane autour de ces 2 cochons. Personne ne sait d'où ils sont arrivés. Une chose est sûre, la police a fini par intercepter les animaux fauteurs de troubles. Au bout de quelques jours, hein, quand même, le Lightcliff Golf Club a pu rouvrir pour redorer son image. Il propose un bonus à tous les nouveaux adhérents. Ceux qui s'inscriraient par internet auront même droit, tenez-vous bien, à un sandwich au bacon gratuit.
C'est tellement sympa, c'est tellement généreux de la part du Golf Club. Merci beaucoup, merci Marion Lourd. Je vous laisse partir avec Leila McCalla de Capitalist Blues sur France Inter.
The stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make. I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right. I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world.
Leila McCalla de Capitalist Blues sur France Inter. Jean-Marc Fourella.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Jean-Marc, le petit Honduras en Amérique centrale voté hier, une alternance politique se dessine, la gauche devrait succéder à la droite, mais pour vous c'est un mirage. Le fait majeur, Jean-Marc, c'est que toute la région connaît une panne démocratique et une dérive autoritaire via des populismes de droite comme de gauche, et c'est votre monde d'après.
Alors, à première vue, les résultats de ce scrutin sont plutôt rassurants. Forte participation, plus de 60%, alternance quasi certaine, autant d'indices théoriques d'une bonne santé démocratique. Sur la moitié des bulletins dépouillés, la candidate de gauche, donc Xiomara Castro, toujours vêtue de rouge, souvent coiffée d'un chapeau style western, possède 20 points d'avance sur son rival de droite, Nasri Asfura, dauphin désigné du président sortant, Juan Orlando Hernandez, surnommé J.O.H. C'est un coup de pied dans la fourmilière de la corruption. J.O.H. était soupçonné d'être lié au cartel de la drogue. Son frère a d'ailleurs été condamné à la prison à vie aux États-Unis pour son implication dans le transport de 185 tonnes de cocaïne. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. D'abord, rien ne dit que le résultat des urnes sera respecté. Les risques de violence sont élevés. Le pays a connu près de 30 assassinats politiques depuis le début de l'année. Ensuite, rien ne certifie non plus que la gagnante soit plus vertueuse que son prédécesseur. Certes, elle promet, je cite, une démocratie participative, un gouvernement d'union. Mais pour Xiomara Castro, la politique est d'abord une affaire de famille. Son fils est son directeur de campagne. Elle est l'épouse d'un ancien président. Et surtout, elle ne cache pas une forme d'admiration pour le socialisme vénézuélien à la Chavez. Pas précisément une garantie de respect du pluralisme. Donc, on a le droit d'avoir des doutes.
Et c'est un problème, Jean-Marc, qu'on retrouve donc dans toute l'Amérique centrale.
Oui, en fait, il y a une seule exception à cette érosion démocratique, c'est le Costa Rica qui reste un îlot de calme relatif. Il y a aussi le cas particulier du Panama, mais il est porté à bout de bras par Washington compte tenu de l'importance géopolitique de son canal. Pour le reste, la dérive autocratique est omniprésente, que les pouvoirs se revendiquent de droite ou de gauche. À droite, on vient de parler du Honduras et de sa plongée dans la corruption depuis le coup d'État de 2009. Même topo, Guatemala voisin, son président Alejandro Rian Matei, comme son prédécesseur Jimmy Morales, réprime les magistrats, entrave les enquêtes sur la corruption, s'en prend à la presse indépendante. Du côté des pouvoirs qui se revendiquent de gauche, ce n'est pas mieux. Dans le Petit Salvador, l'accession au pouvoir du très original Nayib Bukele, il y a 3 ans, avait suscité de l'espoir. C'était un quadragénaire en basket et blouson de cuir. Il semblait parti pour secouer le cocotier. 3 ans plus tard, désillusion. Il concentre tous les pouvoirs, s'en prend aux ONG, est soupçonné de détourner une partie de l'aide internationale. Ajoutons le Nicaragua et la dérive dictatoriale de son couple présidentiel Ortega Murillo. 4e mandat consécutif depuis début novembre, les opposants en prison. Et même le puissant et vaste Mexique n'est pas à l'abri. Son président, lui aussi, de gauche, AMLO, comme on le surnomme, a tout du démagogue populiste.
Et alors Jean-Marc, l'explication c'est quoi? Comment l'Amérique centrale en est arrivée là?
À la fin du XXe siècle, la région avait connu une embellie démocratique, mais en fait, la violence est profondément ancrée. Les coups d'État ont été multiples depuis 2 siècles, les régimes militaires fréquents, avec dans les années 1970 la bénédiction de Washington au nom de la lutte contre le péril communiste. Aujourd'hui encore, la responsabilité des États-Unis est forte à un double titre. D'une part, Washington ne regarde le sujet Amérique centrale que par le prisme de la lutte contre l'immigration illégale. Or, cette immigration massive depuis le Honduras ou le Guatemala ne va pas cesser, vu que dans ces deux pays, les 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté. D'autre part, la violence qui ronge ces sociétés d'Amérique centrale, le taux d'homicide est très élevé au Honduras. Cette violence est le plus souvent liée au cartel de la drogue, donc indirectement liée au marché de la drogue aux États-Unis. On peut ajouter enfin que ces pays sont souvent traversés de profondes lignes de fracture sur les sujets de société, la place des femmes, l'avortement, division nourrie par la poussée des églises évangéliques et autant de divisions qui poussent à la radicalité et aux dérives autoritaires. Bref, l'état démocratique de l'Amérique centrale est inquiétant et rien n'incite à l'optimisme.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, bien sûr à demain. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Ne bougez pas.